Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Morgane Guerriac en direct de la capitale américaine, jeudi 11 octobre 2018, Le Monde Aujourd'hui, édition de 18h30, temps universel. Au sommaire ce soir, Cameroun, un collectif d'avocats exige la libération du leader anglophone Sissoukou Julius Ayoub Tabé. Au Mali, 3 militaires ont été tués la nuit dernière dans le centre du pays. Égypte, 17 condamnés à mort pour des attentats meurtriers contre des églises coptes. Et puis, sommet de la francophonie en Arménie, la Rwandaise Louise Mushikiwabo sera nommée secrétaire générale de l'OIF. Ne ratez pas l'actualité économique et les sports, mais d'abord le journal. Au Cameroun, les trois principaux candidats à l'élection présidentielle ont saisi le Conseil constitutionnel afin qu'il annule en partie ou totalement le scrutin de dimanche pour fraude et irrégularité. Maurice Kamto, qui avait revendiqué sa victoire, a déposé une requête en annulation partielle des opérations électorales. Joshua aussi, candidat du principal parti d'opposition, le SDF, et Cabral Libi, le plus jeune des candidats, ont introduit des recours en annulation totale du scrutin. Le Conseil doit examiner ses requêtes et donner son verdict avant de proclamer le résultat du scrutin au maximum 2 semaines après l'élection. Par ailleurs, les avocats des militants anglophones ont exigé leur libération immédiate et qualifient leur arrestation d'illégale. Hier, un maire a été enlevé dans la région du Nord-Ouest, Clermont-Rangibourg.
Un collectif d'avocats camerounais a exigé jeudi la libération immédiate du leader anglophone Sissoukou Julius Ayoub Tabé et de 9 autres militants, tous arrêtés au Nigeria, puis extradés au Cameroun en janvier dernier. Les avocats affirment qu'ils ont été arrêtés illégalement et doivent donc être relâchés. Les militants anglophones sont détenus au siège de la gendarmerie à Yaoundé. Hier, Donatus Ndiong, maire de Koumbo, une commune de la région anglophone du Nord-Ouest, a été enlevé. Son parti, le SDF, principal parti d'opposition, a confirmé l'enlèvement, pointant du doigt un des groupes séparatistes armés. Le pays attend les résultats de la présidentielle du 7 octobre où la participation a été faible en zone anglophone. Lundi, Maurice Kamto, l'un des principaux opposants au président sortant Paul Biya, a revendiqué la victoire, ce que le gouvernement a aussitôt qualifié d'illégal. Les États-Unis et l'Union africaine ont appelé toutes les parties à attendre la proclamation officielle des résultats et utiliser les moyens légaux pour contester.
Au Mali, 3 militaires ont été tués dans la nuit de mercredi à jeudi dans le centre du pays. Leur véhicule a sauté sur une mine entre la ville de Djoungani et Koro. Un élu local affirme que c'est l'œuvre des terroristes en référence au groupe djihadiste. Les forces armées maliennes sont les plus touchées par les attaques djihadistes, en particulier dans la région de Mopti, au centre. C'est ce que souligne dans son dernier rapport trimestriel sur le pays le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Au Nigeria, l'ex-président Olusegun Obasanjo a adoubé son ancien vice-président et principal candidat de l'opposition à la prochaine présidentielle, Atiku Abubakar. Il s'agit d'un soutien de poids, malgré des années de brouille entre les deux hommes. Le président de Guinée équatoriale a gracié sans les libérer pour l'instant 80 prisonniers, dont une trentaine d'opposants condamnés en février à plus de 30 ans de prison pour sédition. Parmi les prisonniers graciés figure Jesus Mitogo, unique député de l'opposition élu au Parlement, membre d'un parti d'opposition dissous en février. Dans le nord-ouest de la République démocratique du Congo, au moins 15 personnes sont mortes noyées dans le naufrage d'une péniche vétuste et surchargée venue de Centrafrique sur la rivière Ubangi. Dans le sud-est de la RDC, au moins 32 mineurs clandestins ont été tués par l'éboulement d'une mine d'or artisanale dans l'est du pays le 4 octobre. Mais les recherches ont commencé seulement hier. L'éboulement a eu lieu après une forte pluie qui avait provoqué des inondations dans la cité de Mississi, dans le territoire de Fidji. Forte pluie dans l'est de l'Ouganda, au moins 7 personnes ont été tuées dans un glissement de terrain dans le district de Bouduba. Ce chiffre va vraisemblablement augmenter. La Croix-Rouge dit s'attendre à des incidents similaires dans d'autres zones vulnérables au glissement de terrain. Burundi, trois employés de l'International Rescue Committee ont été arrêtés hier dans l'ouest du pays pour avoir violé l'interdiction de travailler frappant les ONG étrangères depuis le 1er octobre au Burundi. La police de Muyinga a surpris trois agents de l'IRC, a annoncé le porte-parole du ministère de la Sécurité publique. Ces trois employés, un Congolais et deux Burundais, sont sous interrogatoire. Éthiopie, des dizaines de soldats d'élite mécontents se sont rendus hier au bureau du Premier ministre Abiy Ahmed pour demander une augmentation de leurs soldes. Les soldats avaient été déployés le mois dernier pour réprimer des violences en périphérie d'Addis Abeba. Ils sont arrivés à la résidence de M. Abiy. Zimbabwe, la police a arrêté plusieurs dirigeants syndicaux qui avaient appelé à une journée de manifestation nationale contre une aggravation spectaculaire de la crise économique. Sachez également que le businessman tanzanien Mohamed Dewji, le plus jeune milliardaire du continent africain, a été enlevé par des hommes armés à Dar es Salaam, dirigeant du groupe MELT. Il a été kidnappé alors qu'il entrait dans la salle de sport d'un hôtel. Les premières informations indiquent qu'il a été enlevé par des blancs venus à bord de deux véhicules. C'est ce qu'a déclaré à la presse le gouverneur de la région de Dar es Salaam. En Égypte, 17 personnes ont été condamnées à mort ce jeudi par un tribunal militaire pour des attentats contre des églises. Ces attaques avaient fait 74 morts en 2016 et 2017. Abdourahmane Dia.
Le président Emmanuel Macron a déclaré que la francophonie doit davantage promouvoir la langue française, en particulier dans les échanges et les institutions internationales. On doit pouvoir échanger, négocier, proposer des initiatives dans notre langue. L'anglais est devenu une langue de consommation, a laissé entendre M. Macron. Il a souligné que le premier combat de la francophonie, c'est la jeunesse, particulièrement en Afrique. Il a souhaité une révision des modalités d'adhésion à l'OIF. L'Arabie Saoudite a retiré sa demande pour être membre observateur. Par contre, la Gambie, l'Irlande, la Louisiane et Malte ont été acceptés sans droit de vote. Le président français a appelé à lutter contre l'oppression faite aux femmes et le recul de l'éducation des jeunes filles. L'avenir de l'Afrique sera féministe, a lancé Emmanuel Macron, alors que le sommet devrait nommer la Rwandaise Louise Mushikiwabo à la tête de l'organisation en remplacement de la Canadienne Michaëlle Jean.
Le président donc Emmanuel Macron qui a appelé au premier jour du 17e sommet de la francophonie en Arménie à réinventer l'organisation qui doit être selon lui un lieu de reconquête des valeurs comme les droits de l'homme. Le parquet de Paris a requis le renvoi aux assises de Laurent Boussé-Bourouta, un ancien préfet rwandais poursuivi pour son implication présumée dans le génocide de 1994 au Rwanda. Le parquet de Paris accuse M. Boussé-Bourouta d'avoir ordonné et de s'être rendu complice d'actes de génocide et de crimes contre l'humanité entre avril et juillet 1994.
Le président Emmanuel Macron a déclaré que la francophonie doit davantage promouvoir la langue française, en particulier dans les échanges et les institutions internationales.
L'étendue des dégâts n'est pas encore bien déterminée, tout comme le bilan des victimes. Pour l'instant, les autorités ont confirmé deux décès. En Géorgie, une fillette de 11 ans a été tuée lorsque les débris d'un garage sont tombés sur sa maison. En Floride, une personne a été tuée par un arbre déraciné. Le gouverneur de la Floride, Reid Scott, n'excuse pas une révision du bilan à la hausse après ce qu'il qualifie de catastrophe impensable. Les rues de Panama City, station balnéaire frappée en première ligne, sont jonchées de branches d'arbres, toitures arrachées, morceaux de verre. Certaines maisons en bois sont déchiquetées. Des milliers de soldats et de secouristes sont engagés dans une vaste opération de recherche et de sauvetage dans les décombres des maisons et dans les zones inondées peu accessibles. L'ouragan Michael, qui a été déclassé en tempête tropicale, touchera la Caroline du Nord et le sud de la Virginie avant d'aller s'éteindre demain dans l'Atlantique.
Et voilà les joies du direct. Nous excusons pour ce problème technique. Vous l'avez compris, il s'agissait donc de ce papier sur l'Égypte, puisque 17 personnes ont été condamnées à mort ce jeudi par un tribunal militaire pour des attentats contre des églises. Ces attaques avaient fait 74 morts.
En plus de ces peines capitales, 19 autres ont été condamnés à la prison à perpétuité et 10 autres de 10 à 15 ans d'emprisonnement. Les 46 autres ont été reconnus coupables du meurtre de 74 personnes et de tentative de meurtre. Les poursuites ont été abandonnées contre 2 personnes décédées pendant la procédure. Peu après ce verdict, Amnesty International a publié un communiqué disant qu'il n'y a aucune justification aux attentats ayant visé les églises coptes, mais prononcer une peine de mort collective après un procès militaire injuste ne dissuadera pas les auteurs de futurs attentats. Toutes ces attaques depuis 2016 au Caire et dans 2 autres villes ont été revendiquées par le groupe État islamique. Par la suite, le président Abdel Fattah al-Sissi a instauré l'état d'urgence qui a été prolongé à plusieurs reprises.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les habitants du nord-ouest de la Floride ont découvert à leur réveil ce matin des scènes de désolation après le passage de l'ouragan Michael. Les vents d'une violence inouïe ont causé la mort d'au moins 2 personnes. Les détails avec Nani Talani.
Le président Emmanuel Macron a déclaré que la francophonie doit davantage promouvoir la langue française, en particulier dans les échanges et les institutions internationales. On doit pouvoir échanger, négocier, proposer des initiatives dans notre langue.
Voilà, donc on a pas mal de problèmes techniques aujourd'hui. On est vraiment désolé. Alors je vais continuer avec le reste des nouvelles quand même. En Ukraine, 4 soldats ont été tués et 3 autres blessés dans l'est séparatiste pro-russe au cours des dernières 24 heures. C'est ce qu'a annoncé le ministère ukrainien de la Défense. L'armée ukrainienne a accusé les séparatistes d'avoir tiré 28 fois sur ses positions au cours des dernières 24 heures en dépit d'une énième trêve en vigueur. Pour leur part, les rebelles ont accusé l'armée ukrainienne d'avoir violé le cessez-le-feu à 22 reprises selon l'agence de presse officielle séparatiste. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco présentée par Nani Talani.
La Côte d'Ivoire prévoit d'investir plus de 3 800 milliards de francs CFA dans l'éducation sur la période 2018-2020. Le président Alassane Ouattara, qui a fait cette annonce, estime que cet investissement permettra de relever les défis tels que l'amélioration de la qualité des apprentissages, la qualité des enseignements, la question de l'adéquation formation-emploi. Alassane Ouattara évoque également l'utilisation du numérique dans les universités et la réforme des curricula afin d'amener les universités à former des citoyens engagés pour la transformation de la société. Des entreprises autrichiennes, japonaises et françaises sont en lice pour la construction d'un pont au Kenya d'une valeur de 200 millions de dollars. Ce deuxième pont de Niali est un ouvrage de 6 voies entre Mombasa et l'île qui lui est adjacente. Ce projet est le 5e annoncé au Kenya dans le domaine des infrastructures de transport depuis le début de l'année 2018. Le plus important est celui de la construction d'une zone économique spéciale à 3,6 milliards de dollars. Au terme du troisième trimestre 2018, la valeur des fusions-acquisitions impliquant des entreprises basées en Afrique subsaharienne a été de 9,2 milliards de dollars. C'est le niveau le plus bas depuis 2007. Il y a un repli de 64% de la valeur des fusions-acquisitions dans la sous-région.
L'info sur les stades, les sports avec Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
Les qualifications pour la CAN 2019.
Oui, les Diables Rouges du Congo dominent à domicile 3-1 le Libéria. Ndokit, Ibarra et Onyang sont les buteurs. Une victoire importante qui relance le Congo-Brazzaville avant le match RDC-Zimbabwe. Hier, les Chipolopolo ont enregistré leur premier succès dans ces éliminatoires face à la Guinée-Bissau. 2-1, les buteurs Sopila Sunzu et Justin Chonga ont inscrit les buts de cette victoire de la Zambie. Les Licaons Bissau-Guinéens ont réagi trop tard. Dans ce groupe, le Mozambique, la Zambie et la Guinée-Bissau sont désormais à égalité. L'Éthiopie et le Kenya avaient fait match nul un peu plus tôt dans le groupe F.
Et demain, d'autres matchs.
Djamel Belmadi et les Fennecs algériens affrontent le Bénin. Ce sera vendredi à Blida. Le Cameroun accueille le Malawi. L'Angola face à la Mauritanie. La Guinée contre le Rwanda. Le Gabon face au Soudan du Sud. À Bouaké, la Côte d'Ivoire contre la Centrafrique. Togo, Gambie, le Burundi en déplacement au Mali. L'Égypte qui accueille Iswatini, l'ex-Swaziland. Et puis le Cap-Vert face à la Tanzanie.
La Ligue des Nations reprend ses droits en Europe.
À suivre notamment le Portugal sans Cristiano Ronaldo face à la Pologne et du côté de la Russie, l'Azbornaïa qui affronte la Suède, l'Écosse se déplace en Israël, le Monténégro face à la Serbie, la Lituanie contre la Roumanie, les îles Féroé face à l'Azerbaïdjan et le Kosovo face à Malte.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Morgane Guiriec. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, place au dossier du jour. Au Mali, le gouvernement a ordonné la réquisition des magistrats en grève illimitée. Les grévistes entendent répondre de façon syndicale et juridique à cette réquisition. Sur place, la correspondance de Cassine Traoré.
La grève illimitée des magistrats a poussé le gouvernement à prendre un décret de réquisition. Diarra Arakitala, ministre de la fonction publique et des relations avec les institutions.
Décret article 1er. Les magistrats occupant les emplois dont la liste est jointe sont réquisitionnés d'office, conformément aux articles 2 et 6 de la loi 8748 ANRM du 10 août 1987 relative aux réquisitions de personnes, de services et de biens. Article 2. Les chefs de juridiction, les procureurs généraux et les procureurs de la République sont également tenus de réquisitionner tout magistrat sous leur autorité pour la tenue des audiences ou la délivrance des actes qui requièrent urgence et célérité.
Draman Diarra, procureur près le tribunal de grande instance de la communication.
La loi 87-048 qui, en cas d'état d'exception, permet à l'administration de requérir des services ou de requérir personnes ou même des biens pendant un temps ou de façon permanente. Ça aussi, c'est encadré par la loi. La réquisition n'est pas hors la loi. Les gens peuvent vraiment épiloguer là-dessus parce que vous savez, chaque fois qu'il est question de quelque chose pour la première fois, il y a beaucoup de salaires dedans. Sinon, c'est bien ancré, c'est dans la loi.
Le porte-parole des magistrats grévistes se dit serein. Alou Badra Nanakassé, président par intérim du SAM.
Je crois qu'on ne devait pas arriver à cette extrémité qui est une première en République du Mali. La loi portant sur la réquisition est bien claire. Nous sommes des juristes, nous savons faire la lecture de cette loi. Nous ne sommes ni impressionnés par la mesure et nous ne serons pas divertis par quoi que ce soit. Et nous nous assumerons jusqu'au bout de la façon la plus légale et de la façon la plus ferme. Et rien ne saurait ébranler notre dynamisme.
Certains juristes commentent cette décision qui est attaquée aujourd'hui par les magistrats grévistes. Cheikh Mohamed Chérif Kone de l'Union internationale des magistrats.
Le recours du pouvoir exécutif à la réquisition des magistrats en tant que fonctionnaire de l'État au sens de l'article 77 du Code pénal, certes encore inédit, est loin d'être une violation de la loi ou une quelconque forme d'atteinte à l'indépendance du pouvoir judiciaire, lequel n'est incarné ou exercé par des syndicats de magistrats. Dans la situation en présence, ce recours à la réquisition imposé à l'exécutif apparaît comme la traduction concrète du devoir incombant à celui-ci d'assumer les responsabilités qui sont les siennes dans la restauration de l'ordre public républicain.
Pour les Maliens moyens, il est temps que l'État trouve une solution définitive à cette grève illimitée.
Moi, je propose que le gouvernement de la République doit tout faire pour régler ces problèmes-là. Mettre en contact, rentrer toujours en contact avec les grévistes, discuter avec eux, dialoguer avec eux pour faire une sortie de crise. Tant qu'on n'aura pas une sortie de crise dans l'AMIA, on n'aura pas de solution. Le gouvernement de l'autre côté, les syndicats de l'autre côté, je pense que le gouvernement doit jouer la carte sur table, c'est-à-dire la balle à terre et négocier les grévistes et trouver une solution.
Cette grève des magistrats risque d'empêcher la tenue des législatives si l'on sait que les casiers judiciaires que les magistrats doivent délivrer n'est pas à la disposition de tous les potentiels candidats. C'est pour cela que le Premier ministre a fait une demande de report des législatives au niveau de la Cour constitutionnelle. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, c'est VOA Afrique, 24 heures sur 24. Au Sénégal, près de 7000 nouveaux cas de cancer du sein sont détectés chaque année. Le mois d'octobre est dédié à la sensibilisation et à la lutte contre le cancer, communément appelé Octobre Rose. C'est l'occasion pour les autorités sanitaires et associations de poser des actes concrets. Incontournable dans ce combat, la Ligue sénégalaise contre le cancer compte subventionner plus de 2000 mammographies à Dakar et dans plusieurs régions. Reportage de notre correspondant à Dakar, Seydina Abagay.
Découvert tardivement, le coût du traitement du cancer du sein est de 2 millions de francs CFA en moyenne, une somme exorbitante pour la majorité des femmes sénégalaises. Pour éviter à ces dernières la cherté de ce traitement, la LISCA leur permet de se faire dépister très tôt. Le docteur Fatma Guenoun est la présidente de la Ligue sénégalaise contre le cancer.
Le cancer du sein, c'est le premier cancer au Sénégal. C'est un cancer qui se dépiste que par un examen mammographique qui est assez coûteux au Sénégal, entre 60 et 80 000 dans le privé. Et grâce à nos partenaires radiologues qui ont réduit le coût à 30 000 francs, on s'est dit que 30 000 c'est assez coûteux pour la femme qui veut se dépister. Et la femme ne payera que 15 000 francs et la LISCA supporte la moitié, le reste.
Pour la LISCA, l'implication des populations est à ce jour l'une des plus grandes avancées dans la lutte contre le cancer. Bénévole à la LISCA, Maïmouna Dembélé indique que la stigmatisation est bien surmontée par les femmes.
C'est une excellente initiative de la LISCA et c'est pour pouvoir avoir le maximum de femmes parce qu'en général, le cancer est quand même un sujet tabou dans nos sociétés ouest-africaines. Les femmes, même pour les sortir de la maison, c'est assez compliqué. Et donc, quand on fait une journée de dépistage où elles savent qu'elles ne vont pas sortir un franc, en général, elles adhèrent.
Encouragée par les faveurs qu'offre la Ligue sénégalaise contre le cancer et consciente des dangers du cancer du sein, les femmes viennent de plus en plus se faire dépister. Sohna nous confie que c'est cela qui l'a poussée à venir.
Les conséquences du cancer du sein sont nombreuses. C'est pourquoi nous avons sauté sur l'occasion pour nous faire dépister, car c'est plus sûr. En plus, nous ne sommes pas toujours en mesure d'aller dans les hôpitaux, car c'est trop cher. La consultation coûte entre 30 et 60 000 francs CFA. Donc ce genre d'initiative ne peut que nous motiver et nous pousser à nous dépister.
Pour les cas suspects, des bons de consultation sont offerts pour un suivi médical. Au-delà du dépistage, la prise en charge psychologique des cas positifs est d'une importance capitale, comme l'affirme le professeur Momodou Diop, chirurgien cancérologue et directeur de l'Institut du cancer.
Il faut faire comprendre aux femmes qui ont souvent peur de se faire dépister que cela peut se guérir, surtout quand le diagnostic est fait tôt. Et parfois, le traitement il peut être très invalidant. Il peut comporter, par exemple, l'amputation du sein. Même la chimiothérapie, ça demande une certaine approche. Et c'est pourquoi les psychologues ont un rôle extrêmement important.
Cette année, près de 3000 femmes vont bénéficier du dépistage gratuit et plus de 2000 mammographies seront subventionnées par la LISCA. À Dakar, Seydina Abagay pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
56 journalistes ont été tués dans le cadre de leur activité professionnelle durant les 9 premiers mois de l'année, selon Reporters sans frontières. 2017 avait pourtant été l'année la moins meurtrière depuis 14 ans pour la profession. Nani Talani a joint Pauline Hadès-Mével de RSF pour l'Union européenne et les Balkans.
Nous avons publié un rapport et nous publierons un deuxième rapport en fin d'année. En fait, ce qui nous a alerté à Reporters sans frontières, c'est les chiffres extrêmement élevés de journalistes qui ont été tués dans le monde depuis le début de l'année 2018. On s'était enorgueilli que l'année 2017 soit la moins meurtrière depuis 14 ans pour la profession. Et là, 2018 inverse la tendance avec déjà 56 journalistes tués en raison de leurs activités professionnelles. Donc des chiffres qui sont dramatiques et qui montrent qu'il est urgent d'agir.
Qu'est-ce qu'explique la montée de cette violence à l'égard des journalistes ?
Il y a plusieurs facteurs qui expliquent la montée de la violence contre les journalistes. Ce qui est certain, c'est que très très souvent aujourd'hui, les journalistes ne sont plus seulement des victimes collatérales, mais sont des cibles. Il faut réduire au silence des journalistes qui dérangent. Les zones de conflit également sont le lieu de nombreuses disparitions. Mais ce qui est clair, c'est que les chiffres sont actuellement mauvais et dramatique parce qu'on doit déplorer des bilans. incidents très graves, par exemple en Afghanistan, avec 13 journalistes tués pendant le courant de l'année 2018, d'autres attentats dans lesquels les journalistes ont perdu la vie.
Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour protéger les journalistes qui ne font que leur travail ?
Reporters sans frontières a lancé une initiative il y a près de 3 ans et défend cette initiative qu'elle a portée à l'ONU. Elle souhaite la création d'un poste de représentant spécial pour la sécurité des journalistes auprès du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. C'était des échanges également qui avaient eu lieu avec Ban Ki-moon. Donc, il faut qu'on amène à une prise de conscience sur la sécurité des journalistes, qu'on arrive à faire en sorte que ça devienne une question qui est centrale et que les autorités internationales, que les autorités locales, les pays où les journalistes sont en danger s'en saisissent pour mettre en œuvre des solutions et pour protéger les journalistes.
Et qu'en est-il de la nomination de ce représentant spécial ? Est-ce qu'on est prêt de voir cette personne ou pas ?
Les échanges sont de plus en plus fréquents et nous avançons avec les Nations Unies sur cette question. Il est difficile aujourd'hui de faire des projections, mais ce qui est certain, c'est que notre demande est prise en considération et que au cours des 2-3 dernières années, nous avons vraiment avancé pour que notre initiative soit soutenue et elle est très bien accueillie.
Voilà, c'était Pauline Hadès-Mével de Reporters sans frontières pour l'Union européenne et les Balkans.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
La francophonie est réunie à Yerevan, en Arménie. Elle devrait nommer à sa tête Louise Mushikiwabo, l'actuelle ministre rwandaise des Affaires étrangères. Il faut dire que l'Afrique est le principal vivier de francophones au monde. Alors à quoi sert la francophonie ? Éric Manirakiza a joint en Normandie l'ancien haut fonctionnaire de l'UNESCO à Paris, Athanase Karayenga.
Mais il faut poser la question, à quoi sert une langue dans n'importe quel pays, dans n'importe quel continent, dans n'importe quelle condition de vie des gens et des citoyens? Une langue, c'est un outil de communication, c'est un outil de culture, c'est un outil d'éducation, c'est un outil pour voyager, c'est un outil pour se cultiver. Une langue, c'est la vie.
Et au-delà de la diversité culturelle et linguistique ?
Toutes ces langues suivent les dynamiques de l'histoire, suivent les dynamiques de l'économie, suivent les dynamiques de la science.
Et la jeunesse africaine, qu'est-ce qu'elle gagne à part parler français ?
Qu'est-ce qu'on gagne à apprendre le chinois ? Qu'est-ce qu'on gagne à apprendre l'arabe ? Qu'est-ce qu'on gagne à apprendre le russe ? Qu'est-ce qu'on gagne à apprendre le swahili ? Qu'est-ce qu'on gagne à apprendre même le bambara, qui est le bamanan, qui est une langue du Mali ? On gagne toujours quand on apprend une langue, un patrimoine commun de l'humanité que nous devons absolument préserver parce que et c'est un enrichissement extraordinaire.
Un pont pour l'intégration économique ?
Tout à fait. Toutes les zones régionales, par exemple l'Afrique de l'Ouest, qui est francophone majoritairement, on voit bien que le Nigeria, qui est pourtant un grand pays, un grand peuple, qui parle plusieurs langues africaines, mais aussi l'anglais comme langue héritée de la colonisation, les Nigérians font beaucoup d'efforts pour apprendre le français afin de pouvoir commercer avec la zone économique de la CEDEAO. Le Ghana, c'est pareil. On le voit aussi de l'autre côté, de l'Afrique de l'Est.
Le choix de Louise Mushikiwabo, l'actuelle ministre rwandaise des Affaires étrangères, n'est pas surprenant ?
Oui et non. Donc c'est une femme, c'est une dame qui est tout à fait au cœur de cette dynamique extrêmement positive des langues, des influences qui nous portent, qui nous enrichissent, qui mettent les Africains maintenant en contact avec le monde entier. Encore une fois, la reine d'Angleterre parle français. Ne rétrécissons pas de cette dynamique extraordinaire de la circulation des idées, des hommes, et de la poésie, de la musique, de la culture. Un duel artificiel entre l'anglais et le français, appliqué surtout dans le cas du Rwanda.
Athanase Karayenga, ancien haut fonctionnaire de l'UNESCO à Paris.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, Cheikh Thiro, à la présentation, Morgan Guiriec. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Rendez-vous également sur notre site internet voaafrique.com pour l'actualité 24 sur 24. Au revoir.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Onde Courte. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.